Et on va peut-être démarrer. Donc, bonjour à tous pour notre séminaire de droit politique d'aujourd'hui qui va porter sur la responsabilité politique, qui sera un peu différent des séminaires que nous avons tenus jusqu'à présent, dans la mesure où il sera moins historique sans doute, et peut-être un peu moins conceptuel ou un peu moins théorique, et plus orienté vers la pratique de la responsabilité ou même sur la prospective quant aux possibilités de revitaliser la responsabilité politique. Je voulais d'abord remercier les participants qui ont accepté de venir aujourd'hui discuter pour le séminaire d'aujourd'hui. Guy Carcassonne, professeur à Nanterre, Philippe Leveau, professeur à Paris 2, Olivier Beau, professeur à Paris 2, qui est sur le point d'arriver, nous rejoindra très rapidement, et puis l'équipe qui anime le contrat de droit politique, Denis Barranger, Armel Ledibellec, qui sont professeurs à Paris 2, et moi-même, qui vais tenter d'animer quelque peu les débats, Carlos Pimentel, donc professeur de droit public à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et puis je voulais remercier également ceux qui nous ont rejoints dans la salle aujourd'hui. Il y a des professeurs invités à Paris 2, tels que le professeur Christophe Mollers, le professeur Richard Brook, nous avons aussi le plaisir d'avoir le professeur Tsukamoto présent parmi nous, ainsi que Jean-Marie Blanquin qui est également présent. Merci à tous d'être là. Conformément au fonctionnement habituel des séminaires, le séminaire se déroule en deux sessions, avec une petite pause entre la première et la deuxième session. Il est d'usage, ça s'est fait comme ça, sans justification particulière, que ce soit les participants qui interviennent au moment de la première session, et ensuite, pendant la deuxième, la discussion est ouverte à l'ensemble de la salle, selon les règles désormais quelque peu habituelles de nos séminaires de droit politique, à savoir que c'est une libre discussion autour de quelques thèmes lancés par le coordinateur des débats, avec très peu de règles contraignantes, la seule ou pratiquement la seule étant pour les intervenants de bien vouloir se signaler à l'animateur, votre serviteur, pour demander la parole et d'éviter les apartés, les sideways conversations, de façon à ce que les débats se déroulent le mieux possible. Débats donc enregistrés qui feront l'objet d'un podcast et qui feront l'objet de podcast d'ailleurs prochainement sur le futur site qui sera enfin mis en ligne après des mois et des mois d'attente, le site qui rendra compte des activités que nous avons développées dans le cadre du contrat de droit politique, site de l'encyclopédie de droit politique que je signale aujourd'hui puisque sa mise en ligne sera faite cette semaine et que nous procéderons vendredi à une présentation du site suivie, chose beaucoup plus importante, d'un cocktail, auquel toutes les personnes présentes aujourd'hui dans la salle sont naturellement conviées. La présentation aura lieu, je crois, à 17h en salle 2 du centre Panthéon. Je parle sous le contrôle de Quentin, je parle sous le contrôle de Brice, qui n'est pas là, mais je pense ne pas avoir tort. Et le cocktail aura lieu ensuite à l'Institut Villers. Ça fait de longs mois que nous attendons de pouvoir mettre en ligne l'ensemble des travaux que nous avons réalisé dans le cadre du contrat de droit politique. Alors, on va donc parler de responsabilité politique dans le cadre du séminaire d'aujourd'hui. Traditionnellement, comme il y a deux sessions, on essaye toujours de trouver deux grands thèmes. Là, j'ai eu beau tourner et retourner la question dans tous les sens, j'arrivais pas à échapper à trois thèmes. Alors, on verra comment ça se répartira en fonction des deux sessions. On a peut-être un peu improvisé. Trois grands blocs. Le premier sur l'importance de la responsabilité politique. On pourrait se demander si ce n'est pas d'une certaine manière un peu l'âme de ce que je serais tenté d'appeler le lien démocratique, le moyen privilégié, ou ça devrait être le moyen privilégié d'une mise à l'épreuve de la légitimité des gouvernants, d'où la gravité du problème de son dépérissement actuel. Donc on aura aussi à discuter. Dans le cadre français se pose une deuxième question qui est plus spécifique, à savoir si on veut réactiver la responsabilité politique, à qui faut-il l'imputer? Et est-ce qu'il faut tenter cette réactivation, si tant est qu'elle est un sens, en direction du chef de l'État, du président de la République, ou bien faut-il tenter de réactiver la responsabilité par le biais des ministres, et singulièrement par le premier d'entre eux? Et puis notre troisième thème, qui sera peut-être le plus important et le plus intéressant, quelles solutions pourrait-on imaginer en termes d'ingénierie constitutionnelle pour réactiver cette responsabilité politique qui est assez largement défaillante? Voilà en gros les trois grands axes autour desquels on va essayer de faire progresser les débats d'aujourd'hui, sachant donc que le deuxième se retrouvera peut-être un peu à cheval entre la première et la deuxième période dans le cours des débats. Donc peut-être premier point, la responsabilité politique que je serais tenté de qualifier d'âme du lien démocratique, dans la mesure où, on le sait, la légitimité élective des gouvernants, qui est une légitimité d'origine, n'est sans doute pas suffisante pour que l'on puisse parler de vie démocratique digne de ce nom, doit sans doute s'accompagner également d'une mise à l'épreuve de ce qu'on pourrait appeler la légitimité d'exercice, le pouvoir tel qu'il s'exerce effectivement. Et cette mise à l'épreuve, dans le cadre de cette mise à l'épreuve, le rôle traditionnellement de la responsabilité est central, comme un test constant permettant de vérifier le maintien d'une adéquation entre les décisions des gouvernants et les aspirations des gouvernés. Et la responsabilité politique, traditionnellement, a un rôle capital dans ce contexte, que cela passe d'ailleurs par la question de confiance ou la motion de censure, ou par d'autres moyens tels que la dissolution, le cas échéant, et éventuellement de manière un peu plus spécifiquement gaullienne par le référendum. Et cela peut-être le texte de Bergerot qu'on a reproduit pour les débats d'aujourd'hui le dit très clairement, l'élection ne suffit pas. Il parle des États-Unis, mais on pourrait aussi bien l'appliquer à la France actuelle. Sans responsabilité politique effective, dit-il, un peuple n'a sa part d'influence qu'au moment des élections. Et Bergerot nous explique que tout change avec la responsabilité politique, pour une raison peut-être toute simple, qui n'est un mot qui n'est pas explicitement prononcé dans son texte, mais qui, me semble-t-il, y est implicitement présent, à savoir le suspense, tout simplement. Peut-être est-ce le mérite essentiel de la responsabilité politique. La responsabilité, c'est intéressant. Ça donne des enjeux, ça dramatise les enjeux. Et lors d'un débat parlementaire, si le Premier ministre, ou si à tout le moins un ministre, risque sa tête, naturellement, le débat va tout de suite devenir beaucoup plus passionnant que s'il s'agit, comme disait Bergerot, d'un prologue sans pièce, je crois, dans son texte, c'est-à-dire de grands débats qui ne débouchent sur rien. Là, ça n'est pas suffisamment intéressant. Alors que si véritablement il y a un enjeu, alors ce théâtre de la responsabilité s'anime brusquement, et on pourrait du coup éventuellement se poser la question, est-ce que en encadrant et en codifiant à l'extrême la responsabilité politique, le constituant français de 1958 n'a pas enlevé au débat parlementaire ce qui fait peut-être leur intérêt principal, à savoir le suspense, tout simplement, et par là même aussi enlever une bonne partie de son importance au Parlement. À cela s'adjoignent des questions connexes. Dans quelle mesure y a-t-il effectivement un dépérissement de la responsabilité politique dans les démocraties contemporaines? Certes, on le dit souvent, les armes de la responsabilité peuvent avoir un effet dissuasif. Et si ces armes sont efficaces, alors la responsabilité n'a pas nécessairement besoin de jouer. Mais si elle ne joue plus du tout, on peut se demander dans quelle mesure elle demeure effective, si l'éventualité, la crainte d'être soumis à l'épreuve de la responsabilité a totalement disparu de l'esprit des gouvernants, alors est-ce que cette responsabilité n'est-elle pas purement et simplement devenue virtuelle? Et dans quelle mesure, dans les démocraties contemporaines, peut-être moins en Allemagne qu'ailleurs, mais dans quelle mesure dans les démocraties contemporaines y a-t-il un phénomène non seulement de dépérissement, mais même peut-être une certaine culture de l'impunité qui tend à se répandre, en dehors du cas de la France qui est assez évident, peut-être se poser la question pour la Grande-Bretagne, qui est pourtant à l'origine même de la responsabilité politique, est-ce que, en particulier depuis les années Tony Blair, il n'y a pas de ce point de vue un vrai grave déficit de responsabilité, et si oui, pourquoi? Je pense par exemple à l'exemple de l'affaire Kelly, qui avait tous les éléments pour constituer un scandale politique majeur et qui a été enterré de manière assez, assez frappante au cours des années 90. Voilà quelles pourraient être les questions à partir desquelles on pourrait, le cas échéant, donc, lancer les débats, soit que vous les repreniez, soit que vous vous en écartiez à votre convenance. Armel,
je veux bien ouvrir le feu en signalant un petit désaccord, ou en tout cas signaler un point qui me paraît vraiment important et qui ne transparaît peut-être pas nettement dans les documents qui servent d'appui pour la discussion, et c'était difficile d'en trouver d'adéquat, on a eu d'ailleurs du mal. Mais c'est sur la manière de poser le problème. Je pense que il faut faire attention à ne pas adopter une vision trop restrictive et réductrice de la responsabilité politique, en ce sens que on en parle souvent comme, notamment dans le cas français de ces notamment 20 dernières années, la frustration qu'on éprouve devant, disons, un scandale, souvent c'est un scandale, les mécanismes ne jouant pas, les mécanismes qui existent sur le papier ne jouent pas de manière satisfaisante, sans contaminer, mais il y a eu bien d'autres choses dans le cas de la seule 5e République, et au fond, ce dont Carlos Pimentel parlait, l'affaire Kelly ou bien d'autres, sont d'autres exemples d'un scandale ou d'une faute identifiable d'un ministre qui serait ou qui poserait le problème de la responsabilité politique. Je crois qu'il est fondamental de ne pas perdre de vue que la responsabilité politique n'est pas réductible au seul problème de la mise en jeu, de l'identification d'une faute, et donc qui se termine éventuellement par la censure ou la démission, la destitution d'un gouvernant, et notamment d'un ministre, mais prendre en considération que dans le grand acquis du système parlementaire moderne, enfin, du système parlementaire en général, c'est que la responsabilité politique, elle a dépassé le phénomène de destitution d'un ministre ou bien de forcer à la démission collectivement un gouvernement, mais c'est au fond quelque chose qui a pu produire un agencement qui permet, dont la nature intrinsèque est que la responsabilité politique joue tous les jours, potentiellement. Et quand un système parlementaire fonctionne bien, c'est qu'elle fonctionne dans toutes les séances quasiment du Parlement, à tous les niveaux de l'activité gouvernementale. Toute question peut être une question de cabinet, et je crois que c'est quand même ce qui découle des meilleures analyses de la Constitution britannique, que Bajot comme d'autres, c'est de dire qu'au fond, on n'est pas simplement dans un antagonisme classique d'organes, on est dans une configuration qui fait que les ministres, toute l'action ministérielle est sous le feu de la critique potentielle, et l'action des ministres a vocation à être discutée, éventuellement infléchie par les débats parlementaires ou par, parce qu'on s'en fait sur la seule séance publique, par l'activité du Parlement. Je pense que c'est fondamental. Il y a une partie que dans le diagnostic que l'on fait sur le dépérissement de la responsabilité, un regard qui s'attache un peu trop aux situations les plus critiques, et on ne voit pas que, même dans le cas de la 5e République, où dans l'ensemble ça fonctionne assez mal, il y a aussi une vie de la responsabilité politique dans l'interaction permanente entre les ministres ou les membres de l'exécutif, disons, et le Parlement. Ça fonctionne, à mon avis, pas bien en France, ça fonctionne trop peu, et l'influence constante du Parlement sur l'exécutif est vraiment faible, et même si on distingue les rôles de la majorité et de l'opposition, puisque ce que je dis là joue sur les deux tableaux, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. On peut dire que les systèmes parlementaires modernes, ceux qui sont parvenus à la maturité, sont ceux dans lesquels les ministres sont là par la volonté du peuple, médiatisés par le Parlement. Donc un des acquis historiques du système parlementaire, c'est que sont en place des ministres qui ne sont plus vraiment choisis par quelqu'un qui est détaché de la volonté électorale, le roi pendant très longtemps, et qui serait contrôlé a posteriori par le Parlement. On a, sauf cas temporaire ou critique, et je ne vois pas d'exemple durable que ce ne soit pas ainsi, que les ministres sont finalement en place par la volonté populaire, encore une fois, soit très directement exprimée, soit médiatisée par des coalitions ou des combinaisons parlementaires. La question est de savoir, une fois qu'on a cet acquis-là, qui est un acquis fondamental par rapport au premier temps du système parlementaire, où il s'agissait d'établir un organe de contrôle extérieur, dans une certaine mesure extérieur, au pouvoir d'État qui avait institué les ministres, on a cet acquis-là. Il y a une étape dans l'histoire du parlementarisme qui est qu'aujourd'hui, les ministres sont, peu ou prou, enfin, pour l'essentiel, en place par une volonté populaire médiatisée par le Parlement. La question est de faire vivre la responsabilité alors qu'ils sont en place, c'est un peu l'allusion que Carlos faisait tout à l'heure sur à Béjot, mais c'est de savoir si les ministres, au fond, gouvernent parlementairement. C'est-à-dire, est-ce que leur action, ils sont en place, on a des ministres de droite parce qu'on a un parlement de droite, parce que le corps électoral l'a voulu, ou bien de gauche à un autre moment, est-ce que les ministres, une fois en place, gouvernent avec une certaine latitude, mais est-ce qu'ils gouvernent en tenant compte, dans quelle mesure, des orientations de la majorité parlementaire, en tenant compte des critiques de l'opposition, dans certains cas, ça peut jouer, quand l'opposition se fait le relais de l'opinion publique, et au fond, c'est ce qui... Il ne faut pas perdre de vue cela, c'est-à-dire s'interroger sur la conduite des politiques, et ça c'est une chose que la science politique contemporaine fait peu malheureusement, c'est de regarder sur les différents secteurs de la politique, de voir au fond est-ce que les projets qui ont été finalement adoptés, les réformes, est-ce qu'elles sont, d'où sortent-elles finalement? C'était le programme du président de la République ou bien d'un premier ministre à la tête d'une coalition, ou est-ce que ce sont des choses qui ont été vraiment discutées, infléchies, qui ont changé sous l'influence d'un groupe majoritaire, parfois même de l'opposition? Il ne faut pas perdre de vue cela, car le déficit de responsabilité concerne aussi, à mon avis, cette question. La question de la responsabilité, en d'autres termes, pour terminer, ne doit pas se focaliser uniquement sur la sanction d'un ministre ou d'un gouvernant en général, au moment où il y a une faute identifiée. Parce que là, on réintroduirait simplement une vision presque pré-parlementaire de la responsabilité au sens originel, répondre d'eux, qui est lié à la faute et qui nous renvoie un peu à la responsabilité au sens juridique, la responsabilité civile, administrative, ou constitutionnelle, dans le sens, par exemple, de l'impeachment américain. Et René Capitan faisait observer naguère que le terme responsabilité, la responsabilité politique, était assez mal choisi parce qu'il sous-entendait l'idée de faute. Et Capitan disait, le gouvernement parlementaire, c'est précisément quand on peut se détacher de l'idée de faute, un ministre ou un gouvernement doit démissionner parce qu'il n'a plus... le soutien politique, pour des raisons qui peuvent être franchement mauvaises parfois, simplement parce qu'il y a un désaccord politique, et qu'on n'aime pas telle ou telle personnalité pour son orientation politique. Et donc, la mise en problématique de cette question focalisée sur les scandales ou sur la mauvaise action d'un gouvernant, à mon avis, réduit à l'excès cette problématique. Alors j'espère qu'on ne perdra pas totalement de vue cette dimension du problème.
Merci Armel. Désolé d'avoir cette espèce de biais par la répression, si j'ose dire. Bon, c'est peut-être pas tout simplement ces exemples les plus flagrants, les plus criants, peut-être d'un déficit de responsabilité. Est-ce que c'est pas un peu idéalisé quand même ta lecture qui consiste à se dire, bon, oui, si ça joue quand même, malgré tout, de manière diffuse, parce que ça influe sur l'attitude du gouvernement, etc. Est-ce que c'est encore aussi vrai? Moi, j'aurais tendance à être plus dubitatif que toi, disons. Il me semble que s'il n'y a tout simplement plus la crainte d'une éventuelle sanction, on voit mal pourquoi on devrait tenir compte de la volonté de parlementaire, particulièrement sous la cinquième, la volonté de parlementaire qui, de toute façon, diront jamais non ou quasiment. Guy ?
Oui, histoire de pimenter un peu, je dirais de manière délibérément provocatrice que je trouve vos deux approches combattant dans la surenchère, dans l'anachronisme, dans la désuétude. Carlos, nostalgique du suspense, schématise, mais je dirais pour le suspense, quelque chose de délicieux, il y a quand même des instruments plus appropriés que le Parlement. Voir des pièces à suspense, des films à suspense, lire des livres à suspense, quand on a envie de suspense, c'est pas vers le Parlement qu'on doit se poser. Moi, je suis désolé, je ne considère pas que l'une des vocations du Parlement, l'une de ses fonctions, soit une fonction d'entretien de suspense. Donc le Parlement, il est là pour voter la loi, contrôler le gouvernement, faire un certain nombre d'autres choses, parmi lesquelles je ne vois pas qu'il y ait lieu à ce qu'il soit un théâtre auquel on se précipite pour des enjeux dramatiques de personnes. Bon. Donc, je crois que c'est cette vision qui était celle de Bechot était parfaitement exacte, mais, me semble-t-il, correspondait à un état d'adolescence du Parlement plus que de maturité. Je trouve que la vision d'Armel pêche un peu de la même manière, car implicitement, elle idéalise la légitimité parlementaire dans des conditions qui me paraissent totalement dépassées. Totalement dépassées. Là, vous êtes un certain nombre à le savoir, pour me connaître depuis suffisamment de temps, j'aime le Parlement. Je respecte beaucoup le Parlement et je trouve qu'il doit fonctionner incomparablement mieux qu'il ne fait. Pour autant, je considère, et ceci n'a rigoureusement rien d'original, que l'une des caractéristiques de beaucoup des régimes modernes, contemporains, européens, est que leurs élections législatives sont avant tout des élections gouvernementales. En d'autres termes, on n'élit pas Monsieur un tel parce que l'on veut élire Monsieur un tel qui va finalement accorder sa confiance à Monsieur X Premier ministre. On veut Monsieur X comme chef du gouvernement, en conséquence de quoi Monsieur un tel se trouve élu au Parlement. De sorte que continuer à vivre sur un schéma dans lequel c'est du Parlement que doit naître le gouvernement par la réunion d'une majorité autour d'un nom est une vision qui peut encore correspondre à des situations y compris contemporaines en Europe, mais ça n'est pas le cas le plus fréquent. De sorte que je pense que la conception d'Armel est à la fois discutable et en tout état de cause trop large, parce qu'elle nous ramène au bout du compte à la question majeure, essentielle, et pas toujours bien réglée, certainement pas en France, de la nature et de l'organisation des relations entre gouvernement et Parlement. Mais elle va bien au-delà de la question de la responsabilité, ou alors tout est responsabilité, donc rien n'est responsabilité. Enfin, j'ai peur que ça ne nous entraîne trop loin. Non, la responsabilité, il me semble que ça reste une notion philosophique et politique et juridique. J'aime beaucoup la formule de Carlos qui, quand il rappelle que c'est l'âme de la démocratie, mais pour moi c'est d'abord et avant tout, parce que je suis sans doute un esprit beaucoup trop étroit, une notion juridique indissociable de la notion même de droit. Qui sont les irresponsables? Ceux qui sont inaptes. Dès l'instant où on est apte, on est responsable. Et ça vaut pour les adultes, passé l'âge de la majorité, ça vaut pour les personnes normales, ça vaut pour le professionnel, ça vaut pour le politique, exactement de la même manière. Et je ne crois pas non plus, deuxièmement, que la responsabilité soit nécessairement liée à la notion de faute. Il y a toutes sortes de situations dans lesquelles on sait bien qu'il existe une responsabilité, non pas nécessairement sans faute, mais en tout cas sans faute de celui qui assume la responsabilité. Personne n'a jamais véritablement accusé Grévy d'avoir profité du trafic qu'organisait son gendre. Personne, je pense, n'accusera Nicolas Sarkozy d'avoir incité son fils à lancer des tomates sur la policière de garde. Bon, n'empêche que l'un comme l'autre se trouve responsable d'une faute qui n'est pas la leur. Et dans la responsabilité politique, pas beaucoup plus encore que dans bien d'autres responsabilités, cette hypothèse d'une responsabilité assumée par une personne qui n'est pas elle-même à l'origine directe, enfin qui elle-même n'a pas commis de faute directe, est beaucoup plus répandue. Mais la caractérisation juridique me paraît toujours raisonnablement solide. La troisième remarque que je ferais, c'est que je pense que l'on se crée une situation assez difficile pour la réflexion lorsque l'on met sur le même plan responsabilité individuelle et collective. Je ne pense pas qu'elles obéissent globalement à la même logique, ne fait aucune espèce de doute. Il n'en demeure pas moins que dans leur manifestation, dans un système politique, quel qu'il soit, les questions posées par la responsabilité collective et par la responsabilité individuelle ne sont pas du tout les mêmes. La responsabilité collective obéit à des procédures qui sont claires, qui fonctionnent, y compris quand elles ne sont pas mises en œuvre, mais qui sont virtuellement là, qui sont parfaitement connues, qui sont identifiées, et dont on sait comment elles doivent fonctionner, dans quelles circonstances. Alors que la responsabilité individuelle, pas du tout, très peu. Personne, en connaissance, n'en a encore, mais ça je pense que je garde ça pour plus tard parce qu'on y reviendra lorsqu'on abordera la solution, mais personne n'a encore véritablement défini de quoi était faite la responsabilité politique individuelle. Personne n'a, enfin, nulle part, à ma connaissance, n'ont été à proprement parler mises en œuvre des procédures destinées à mobiliser cette responsabilité individuelle. Et donc, et en plus, les registres sur lesquels elles interviennent l'une et l'autre sont radicalement différents. Donc, je crois que peut-être, pour la suite de la discussion, ce n'est qu'une suggestion, mais doit-on toujours être attentif à savoir si on parle de l'une ou de l'autre, car je persiste à penser qu'elles n'obéissent pas. Enfin, elles obéissent à la même conception générale, elles n'obéissent pas du tout au même registre de conception et de mise en œuvre. Et je m'en tiendrai là pour les moments.
Merci Guy. Denis ?
Nous avons l'habitude en général d'enseigner à nos étudiants que la responsabilité est le juge de paix en matière de régime politique, c'est-à-dire c'est au regard de la manière dont se déroule ou ne se déroule pas la responsabilité politique qu'on distingue les grands régimes, soit présidentiels, soit parlementaires, etc., etc. Je me demande si c'est vrai. Et je me demande si on n'en est pas passé à des systèmes politiques sans responsabilité. En tout cas, dans ce qu'on appelle le régime parlementaire, je me demande si c'est le marqueur qu'il faut conserver, parce qu'au fond, si on essaye d'être très très réaliste, et une fois de temps en temps, il faut faire un effort, une révolution réaliste en sciences politiques ou en matière de régime politique, c'est ce qui a fait le génie de gens comme Batchot ou comme Wilson, c'est qu'ils ont su dire voilà, aujourd'hui ça se passe comme ça, et tout le monde ensuite a vu ça comme eux. Puis on n'en est pas là. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment de la responsabilité politique au sens parlementaire, Batchot, Bicom, dans nos régimes parlementaires? Je ne suis plus très sûr. On a peut-être d'autres choses qui l'accompagnent, mais je trouve qu'elle a un peu disparu, et il faudrait refaire pour la responsabilité un livre qui aura le titre de celui de Revel sur les démocraties, comment la responsabilité a fini, comment elle a cessé d'être. Et ça, malgré tous les efforts pour la renouveler, la réformer, la réinstaller sous une autre, sous d'autres espèces, que la responsabilité. Et ça vaut d'ailleurs par exemple pour la responsabilité pénale des ministres aussi, etc. Les tentatives de réforme sont un peu inopérantes. Ce que je trouve frappant de ce point de vue-là, c'est que quelle que soit la configuration, le bilan de l'autre côté du Sénégal est toujours le même, c'est-à-dire pas de responsabilité politique. On disait très classiquement que la responsabilité politique était tuée par le fait majoritaire en France, très bien. Avec le quinquennat et avec la présidence Sarkozy, quel que soit le genre de qualificatif qu'on veut lui adjoindre, on constate qu'il n'y a plus vraiment de fait majoritaire. Enfin, il y a un fait majoritaire, mais enfin, à l'intérieur de la boîte noire, il y a, c'est extrêmement secoué, c'est une zone de turbulence, et néanmoins, il n'y a toujours pas de responsabilité politique. Dominique Rousseau, dans son dernier livre, fait un long bilan des crises, à l'intérieur du triangle Premier ministre, président du groupe parlementaire, en montrant que les majorités ne sont plus... Nicolas Sarkozy a perdu ses godillots. Il a perdu ses godillots, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a plus d'engagement de responsabilité politique, que lui est plus responsable. C'est pareil au Royaume-Uni. L'affaire Kelly, c'est une affaire assez particulière. C'est l'affaire étouffable par excellence. Donc elle a été étouffée, ce n'est pas très surprenant. Que la responsabilité, ça n'est pas... Il y a objectivement un truc scandaleux, ça doit être sanctionné. Il y a une configuration politique dans laquelle une majorité ou une force politique au Parlement va saisir d'un truc pour déstabiliser le pouvoir. Dans l'affaire Kelly, il y avait un truc scandaleux qu'on aurait dû être dénoncé, mais il n'y avait pas ce contexte politique porteur pour une déstabilisation. Donc ça, on peut trouver des tas et des tas de scandales politiques qui n'ont pas donné lieu. Mais il y a eu, on en a parlé autour de cette table, ne serait-ce que la semaine dernière, un nombre significatif de votes négatifs contre le gouvernement Blair. Ça recommence avec le gouvernement Cameron, la Chambre des Lords, qui à ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il y a responsabilité, ça veut dire des votes négatifs. C'est-à-dire qu'au fond, maintenant, avec des parlements godillots, des parlements non godillots, il n'y a pas de responsabilité. Avec des présidents à mandat long, des présidents à mandat court, il n'y a pas de responsabilité. On a aujourd'hui un président qui a gouverné et qui n'a pas la confiance, et un Premier ministre qui a la confiance et qui ne gouverne pas. Aucune configuration ne produit de la responsabilité politique. Donc au bout du compte, peut-être qu'un jour, quelqu'un de plus courageux que nous dira, ben, passons-nous-en, arrêtons de la réclamer. Et ça, je me demande si il n'y a pas un truc là-dessous qui est que, pour qu'il y ait de la responsabilité, bizarrement, pour qu'il y ait de la responsabilité politique, il fait là une sorte de déférence envers les gouvernants. Le gouvernant responsable n'était pas celui qui était constamment sous le regard suspicieux des gouvernés, c'était au contraire celui qui inspirait une certaine déférence, qui inspirait des... On a ça dans les textes du début de nos lectures, qui a du prestige, qui a de la durabilité, un chef d'État qui donne du prestige, qui jouit de prestige et dont des ministres qui sont responsables, un président de la République avec une certaine charge de prestige comme général de Gaulle, qui comme par hasard est celui qui a l'énergie politique de mettre en balance sa démission dans les cas référendaires. Il faut une atmosphère de déférence politique pour qu'il y ait de la responsabilité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une atmosphère de totale défiance envers les gouvernants, avec encore une fois mon autre côté du signe égal, où il n'y a aucune responsabilité. Les gens n'ont aucune confiance. On fait des sondages, avez-vous confiance dans les hommes politiques qui nous gouvernent? 0,2% oui, 98,8% non. Et pour autant, la responsabilité politique n'est plus l'instrument de mécanique constitutionnelle pour répondre à ce problème-là. Donc au fond, le jugement moral négatif très fort qui paralyse et qui rend problématique le gouvernement représentatif contemporain, n'a plus comme instrument, n'a plus comme solution, n'a plus comme débouché vers les mers chaudes la responsabilité. Voilà, donc au fond, les grandes représentations politiques, les grandes interprétations de régimes qui rendaient la responsabilité politique étaient peut-être fondamentalement dualistes, ou en tout cas fondamentalement avec quelque chose d'un peu ancien régime quand même. Et maintenant que tout ça est quand même très largement passé aux oubliettes sous toutes les formes qu'on a pu essayer, il se peut bien que la responsabilité politique soit quelque chose de fossilisé, donc on n'arrivera pas à redynamiser.
En fait, on sera en train de parler d'histoire. Lorsqu'on parle de...
Mais qui a envie de faire de la responsabilité politique la clé d'explication d'un cours sur la Ve République ou sur le Royaume-Uni ou sur ce qu'on voudra? Personne de réaliste.
C'est une possibilité, en effet, qu'on parle de quelque chose qui, de toute façon, est déjà révolu.
Mais est-ce que c'est le problème que ce soit déjà révolu ou non? C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas une sorte de principe qui est errant, pas seulement historiquement, mais de façon logique, au principe représentatif? Et donc, la responsabilité, d'ailleurs, c'est ce que Denis vient de rappeler incidemment, le mot lui-même signifie deux choses. On est responsable, on doit rendre compte, mais on est responsable, on est capable de. On a la responsabilité de. On est là pour agir et pas pour... à partir de ce principe qui est une sorte de... Enfin, c'est comme la Stouff théorie de Kelsen, qui est une sorte d'un créé du mont Tabor qui est au-dessus de la définition du régime, la pensée concrète de l'effectuation de cette norme ouverte, c'est la question de la majorité. Et c'est là qu'à partir de la notion de majorité, on peut alors continuer majorité, le principe de majorité étant la traduction ou l'effectuation du principe de responsabilité, on peut continuer d'utiliser la responsabilité comme critère de classification des régimes, puisque le fait est que président français, pour être un président présidentialiste, a besoin d'une majorité, tandis que le président américain n'en a pas besoin. Il peut se voir privé du budget qu'il a présenté, il peut se voir soumis à une procédure de destitution. La moitié de la présidence Clinton se passe dans des circonstances comme ça. Or, pourtant, personne ne dit que Clinton n'est pas le président. Donc, il y a une différence qui continue de se marquer entre le président du régime présidentiel et le président du régime parlementaire en France, qui se fonde exclusivement sur la question de savoir... A-t-on, l'exécutif, a-t-il ou non besoin d'une majorité? Alors que cette majorité ne se traduise pas en termes de parlementarisme Godillot, comme à l'époque du général ou de Pompidou, et ou à l'époque des 20 années qui ont suivi la libération en Grande-Bretagne, c'est possible, mais ça, le Parlement qui met en minorité le gouvernement en Grande-Bretagne, on trouve ça tout le temps. Avant 1945, après 1965, le gouvernement de Heath est un modèle du genre, et le gouvernement, le premier gouvernement de Wilson, peut-être moins quantitativement, mais plus significativement, puisque là, clairement, il n'a pas de majorité sur les questions européennes. S'il y a une majorité, c'est parce que le Premier ministre peut bénéficier de l'appoint d'une partie de l'opposition. Donc, ça n'empêche pas, ce sont des épiphénomènes, ça n'empêche pas la prise en compte de cette notion de majorité comme étant au centre même de la nature, en quelque sorte, des régimes. Je reviens, juste avant de vous laisser la parole, bien sûr, à la question du suspense abordée. En réalité, je suis tout à fait d'accord avec Guy Carcassonne là-dessus, en réalité, qu'est-ce que c'est le suspense? Vous vous souvenez, c'est la formule de Gaulle, les poisons et les délices du régime. Il faut, si on veut évacuer les poisons, malheureusement, on évacue aussi les délices. Voilà.
Denis, vous voulez réagir? C'est pas ce qu'on dit, pas nécessairement incompatible, parce que...
Oui, c'est ce que...
Ah non, c'est pas incompatible, oui. J'étais dans la suite.
Au fond, moi, je parlais des mécanismes d'engagement, et la responsabilité dont vous parlez, c'est un peu résolu par ce qu'a dit Guy, c'est-à-dire qu'au fond, elle se décide dans l'élection, c'est-à-dire la majorité se constitue dans l'élection, et ensuite, les rapports effectifs entre la majorité élue et son gouvernement sont pas décisifs dans la survie du régime. La preuve, c'est qu'en 1974, il y a des dissolutions au Royaume-Uni. C'est qu'en vérité, le quinquennat fait qu'il y a suffisamment... il y a un rythme électoral suffisamment rapide pour qu'on sache suffisamment vite si le président a la confiance du peuple ou pas. Il y a une sorte de démédiatisation. À la limite, il n'y aurait pas l'exemple israélien, l'échec israélien d'élection du Premier ministre. On pourrait plaider pour ça, parce que ça, on serait presque tenté de croire que c'est ça la solution. Il se trouve que ça ne l'est pas, parce qu'Israël a montré que c'était un échec. Mais c'est le dernier petit stade où la médiatisation résiste. Donc au fond, la responsabilité politique au sens de confiance qui permet de gouverner par la constitution de majorité demeure là. Les mécanismes d'engagement sont sortis de la salle.
Un détail ici, qui permet de... Juste pour corriger, enfin, à mon sens, ce que tu rappelais qu'a écrit Dominique Rousseau. C'est vrai qu'aujourd'hui, le président du groupe parlementaire majoritaire se trouve dans une situation très privilégiée, très renforcée par rapport à ce qu'elle était auparavant. C'est vrai aussi que l'apparence du député Godillot s'est estompée. Le Godillot a encore de beaux jours de il s'est produit, y compris dans les cas que cite Dominique, systématiquement, il y a eu des réformes voulues par le gouvernement dont le groupe parlementaire unanimement disait c'est une ânerie, lequel groupe parlementaire ensuite unanimement le votait. La différence entre avant et maintenant, c'est qu'avant il pensait que c'était une ânerie. Il a voté quand même. Maintenant, ils disent que c'est une ânerie qu'il a voté quand même. Et au bout du compte, le pouvoir du président n'en est pas gravement affecté. Et on pourrait comme ça en donner un certain nombre d'exemples. Il n'y a pas de cas, me semble-t-il, même sous cette législature, avec des députés affectant de prendre leur autonomie à l'égard du gouvernement du président de la République, dans lesquels, pour autant, ils aient rejeté effectivement une réforme voulue par le chef de l'État.
Peut-être professionnel.
Mais la taxe professionnelle, ils ont tous dit que c'était de la folie ce que voulait le gouvernement, ils l'ont tous voté. Ils avaient travaillé comme rarement et extrêmement bien, majorité, opposition confondue, pour préparer un texte très très bien pensé, très réfléchi, de méthode substitutive à la taxe professionnelle. Le rapporteur de la majorité pleurait en séance, mais pleurait physiquement. Et je dis ça, mais je dis ça sans ironie, parce que le type avait le sentiment qu'ils avaient tellement bien travaillé, qu'ils avaient vraiment la solution, qui se ferait dans le consensus, qui serait efficace, moderne, et tout ci et tout ça, pour dire, et on ne peut pas l'adopter, parce que le gouvernement n'en veut pas. Et le gouvernement n'en veut pas parce que le gouvernement est toujours sur le syndrome sgrognonieux. On a dit que ce serait comme ça, donc ce ne sera pas autrement. Et ils ont tous voté, en étant déchirés. Bon, donc, je crois qu'il faut beaucoup relativiser le fait que la majorité serait désormais sujette à des divisions. Reste, j'espère bien que ce sera le cas dans la suite, reste que les révisions, la révision constitutionnelle de 2008, à mon avis, a très délibérément introduit une bombe à retardement, enfin une bombinette, en ceci que de plus en plus, les groupes parlementaires finiront par secouer le joug de la tutelle gouvernementale et par parfois prendre des décisions, y compris contre la volonté de celle-ci. J'espère qu'on y parviendra. Mais même dans cette hypothèse-là hautement souhaitable, je doute que ça aille jusqu'à une remise en cause radicale de l'autorité divine, abusivement reconnue au président de la République ou au gouvernement.
Je serais tenté de rebondir brièvement sur ce que vient de dire Guy, puisque Denis et Philippe, vous me sembliez en grosso modo d'accord, la responsabilité c'est l'histoire, et ce que nous dit Philippe, c'est que bah, finalement, du coup, il faut qu'on raisonne en termes de majorité, et que on laisse la majorité à ce qu'elle est, c'est-à-dire un vestige qui a à peu près disparu. En même temps, lorsque Guy nous parle du maintien de la discipline de vote, y compris jusqu'à l'absurde, je me demande dans quelle mesure, en l'écoutant, je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas dire, finalement, la responsabilité joue pas de manière traditionnelle, mais au sens où elle a un effet paralysant sur les parlementaires, c'est-à-dire que lorsque une hypothèse qui pourrait, le cas échéant, justifier que le gouvernement dise ah bah, si c'est comme ça, je m'en vais, si vous ne votez pas mon texte, je pars, a peut-être qu'une incidence sur le fait que les parlementaires, bien qu'ils disent, enfin, sont complètement schizophrènes, disent que c'est une très mauvaise mesure, mais on va la voter quand même, et que finalement les frondes parlementaires, dans le cas de la cinquième, il me récente, ont plutôt tendance à se réaliser dans des cas de figure où on sait de toute manière que la question de la responsabilité ne sera pas posée. Je veux dire, l'affaire des radars, par exemple, il y a quelques mois, là, il y a une bronca parlementaire qui s'est exprimée, me semble-t-il, d'autant plus facilement qu'il n'y avait pas d'enjeu, enfin, qu'on savait que, de toute façon, le gouvernement ne jouerait pas sa survie sur une question pareille. Est-ce que, de ce fait, on ne pourrait pas dire qu'il y a une certaine incidence, quand même, de la responsabilité, mais pas du tout dans le sens où on croit, dans un sens non pas régulateur, mais au contraire contre-productif.
Mais là où je... Oui, non, mais je pense que c'est exact. Et là où je rejoins tout à fait Denis, c'est dans l'idée sur laquelle c'est vrai que les mécanismes de mise en œuvre de la responsabilité paraissent aujourd'hui être devenus quasiment d'un non-sens, mais je crois qu'il y a à ça une explication très simple, ça ne signifie pas du tout qu'elle soit satisfaisante, qui est que d'une manière générale, la responsabilité ultime devant les électeurs dans les régimes majoritaires fonctionne tellement bien, si j'ose dire, que la responsabilité intermédiaire perd beaucoup de son sens. Toutes sortes de situations dans lesquelles, jadis ou naguère, le Parlement aurait pu dire au gouvernement soit on renverse le gouvernement, soit tel ministre est vraiment trop nul, il faut absolument que vous le chassiez, tout ça, s'estompe derrière, écoutez, nous on décide que rien ne bouge et que ce sont les électeurs qui tranchent. Et que finalement, ce renvoi, qui n'a même pas besoin d'être explicite, à la responsabilité ultime qui, elle, est une réalité. Enfin, je veux dire, la question de la responsabilité de l'actuel gouvernement, elle se pose clairement en mai et en juin. Bon. Le renvoi, donc, à cette responsabilité ultime conduit à ce que, les responsabilités intermédiaires, y compris quand on n'est pas très fier de ce que l'on fait du côté de l'exécutif, on dit, oui, mais c'est notre décision, et puis les électeurs jugeront. Voilà. Je pense que peut-être que, enfin, ce qui peut réconcilier nos points de vue, encore qu'ils ne soient pas tout à fait antagoniques, c'est autour de cette idée-là, entre le moment de la responsabilité. Le moment de la responsabilité. Tout à l'heure, j'appelais à une distinction entre collective et individuelle. Il faut peut-être aussi prendre en compte le fait que, cette responsabilité intermédiaire n'a plus exactement le même sens depuis que l'on a le sentiment, à tort ou à raison, qu'il existe une responsabilité ultime dont le moment normal de manifestation sont les élections générales. Les élections nationales.
Oui, sans doute. Cela dit, est-ce que... Enfin, tu fais pas qu'un constat, tu dis ça fonctionne très bien.
Non.
La responsabilité élective. Non, tu n'as pas dit.
Ce qui fonctionne bien, c'est que la responsabilité est effective en ceci que les électeurs ont une alternative et qu'il ne dépend que d'eux de la choisir. C'est la seule chose qui fonctionne bien. Ça fonctionne bien.
Une fois tous les 10 ans.
Tous les 5 ans.
Tous les 10 ans dans le cas de la France, puisque. Puisque quand un candidat se présente à l'élection, ce n'est pas de la responsabilité qu'il joue, s'il n'est pas président sortant. Donc finalement, ça va faire une fois tous les 10 ans.
Mais non, pas tous les 10 ans, parce que se faire réélire n'est pas qu'une simple formalité.
On va s'en rendre compte probablement prochainement.
Non, pardon, pas une fois tous les 10 ans, une fois en 10 ans, excuse-moi. ce que je voulais dire, au moment de la réélection, à mi-double mandat, si on peut dire.
Oui, après le premier
quinquennat. Oui, voilà, mais sauf que le rôle de la majorité n'est pas tout à fait inconsistant. Même lorsque Nicolas Sarkozy a été élu pour la première fois en 2007, il n'était certes pas président sortant, mais enfin, il était depuis déjà 5 ans ministre, soit de l'intérieur, soit de l'heure, dans une majorité de droite que les Français ont néanmoins jugé à cette occasion. Si les Français avaient voté pour la gauche en 2007, ils le pouvaient. Ils n'ont pas choisi de le faire, mais ils le pouvaient. Il n'y a pas que la responsabilité du président de la République qui se rend.
En tout cas, c'est quand même très très ponctuel, très rare, me semble-t-il. Armel, je crois que tu
voulais... Olivier, d'abord.
Ah, pardon. Mais attends, excuse-moi, en Grande-Bretagne, tout ton temps.
Oui, oui, bien sûr.
Et puis maintenant, depuis le 15 septembre 2011, on sait que ce sera tous les 5 ans, quoi qu'il arrive. Donc il n'y aura plus qu'une solution.
C'est pas... Ouais, enfin, ah, ce qui a affaibli aussi considérablement l'arme de la responsabilité. Bien sûr. Il ne joue plus comme une épée de Damoclès.
Je pense que Bechot aurait dit s'il avait connu le... Le fixe term par les mandats.
C'est mieux aussi.
Olivier,
oui, alors, je vais te réintroduire un peu de dissensus sur ce consensus qui est en train de naître. Sur deux points, peut-être par rapport à ce qu'a dit Denis Barranger, sur la question, enfin sur l'affirmation sur laquelle il n'y aurait plus tellement de responsabilité. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas complètement vrai. C'est-à-dire qu'il me semble que si on prend le dernier quinquennat, il y a eu des moments, effectivement, on voit bien qu'il n'y a pas une responsabilité classique du gouvernement devant le Parlement, mais il y a eu des cas où, quand même, des ministres concernés ont été mis en cause, ont été obligés de démissionner. Donc on a, et je pense le cas à l'affaire Woerth, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe Oui, oui, bah, il y a des cas, alors c'est ce qu'on appelle des scandales, comme ça, entre guillemets, ou des affaires, mais qui méritent d'être étudiés de près. On s'aperçoit que là, effectivement, le Parlement fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas faire grand-chose, puisqu'il est quand même un peu bourré dans la commission d'enquête, mais il y a une sorte d'alliance... objective entre l'opposition, la presse joue un rôle très important, et dans pratiquement toutes les démocraties qui sont un peu vivantes, il y a un moment donné où un ministre ne veut plus rester en fonction. Donc, alors est-ce qu'on appelle ça de la responsabilité ou pas? Pour moi, c'est de la responsabilité, parce que si on prend, j'ai l'impression, j'ai peur un peu que si on prend le point de vue de Denis qui est un peu radical, paradoxal et contre-intuitif, on n'arrive plus à distinguer quand même des régimes libéraux, des régimes autoritaires. Alors, s'il me semble que la responsabilité a un sens pour un constitutionnaliste, c'est que ça permet quand même très largement de distinguer des régimes autocratiques de régimes non autocratiques, avec cette idée que la responsabilité, c'est l'envers de l'agir politique. Hein, le titre, c'est la responsabilité solution au problème de l'agir politique. Si la responsabilité existe, c'est parce que d'un côté, les gouvernants ont une latitude d'action, ils peuvent choisir, mais l'envers de cette liberté d'action, de cette latitude d'action, eh bien, c'est qu'ils doivent assumer leurs actes. Alors, je nuance ce propos en disant effectivement qu'un des problèmes, pour moi, ce qui me paraît évident actuellement en France, mais aussi ailleurs, je ne pense pas que ce soit propre à la France, c'est que justement, la plupart des gouvernants, justement, ceux qui gouvernent, ont beaucoup de mal à assumer cette idée. Puisqu'ils disent toujours « j'assume ma responsabilité », expression extrêmement belle et... disons engageante, et puis on s'aperçoit que quand il s'agit de tirer les conséquences de cette belle affirmation, il n'y a aucune affirmation. Or, le problème de responsabilité, ce n'est pas qu'on l'assume soi-même, c'est que ce sont d'autres qui vous obligent à être responsable, et à ce moment-là, que vous le vouliez ou non, ben, vous êtes responsable, ce n'est pas vous qui allez vous autodéfinir comme responsable. Donc, moi, je crois que sur le premier point, je serais peut-être un peu, disons pas forcément plus optimiste, mais en tout cas un peu plus nuancé, qu'il faudrait peut-être repérer les nouvelles formes de responsabilité, non parlementaires peut-être, qui existe, bon, sur la cinquième, c'est évident qu'on a une responsabilité très particulière, propre à la France, qui est la responsabilité devant le président de la République. Alors évidemment, il y a des cas qui peut jouer d'ailleurs dans le sens inverse, c'est-à-dire une protection du président. Prenons le cas, à mon avis, qui est un des plus illustratifs du dernier quinquennat, qui est le cas de l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais, l'affaire Tapie. Bon, voilà, un cas extrêmement intéressant où la responsabilité parlementaire a eu énormément de mal à fonctionner. Et on en est maintenant à un cas classique, c'est la responsabilité pénale qui va, dans quelques années, éventuellement être déjà mise en œuvre. Il y aura peut-être une décision de la Cour de justice de la République sur un cas qui est extrêmement problématique et qui devrait tous nous interroger, nous, en tant que citoyens. Et on voit très bien qu'ici, de mon point de vue, la responsabilité ne fonctionne pas de manière très effective, puisqu'il y a une sorte de report constant de la mise, la question de moins de responsabilité, et bien cette mise en œuvre de la responsabilité est différée avec justement cette critique qu'on peut faire en allant à la responsabilité pénale, c'est qu'elle est bien trop lente, que justement la vraie responsabilité politique, elle est immédiate. Et c'est en cela, elle touche le responsable tant qu'il est au pouvoir. Maintenant, Madame Lagarde est à Washington, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans quelques années lorsqu'elle sera devant la Cour de justice ? Ça, c'était ma première remarque. Et la deuxième remarque, c'est un petit désaccord avec Guy. J'ai toujours un peu peur de mettre un désaccord avec Guy parce que je connais son amitié rhétorique. Et je suis souvent immédiatement pris par une prise de judo et me retrouve quatre fers en l'air. Donc je vais l'autre. J'arrive maintenant à la pointe. Qui est sur le moment, en fait, ça rejoint ce que dit Carlo, c'est-à-dire la question de la responsabilité finalement devant le peuple. Quand même, c'est pas entièrement satisfaisant. Il y a le texte de Capitan qui a cru trouver cette solution de la responsabilité devant le peuple. Mais si on prend le cas de la 5e ou le cas récent, bon, bah, on a un contre-exemple parfait. C'est-à-dire, c'est une exception, mais c'est l'affaire Chirac, c'est-à-dire la réélection de Jacques Chirac. On voit très bien qu'il n'y a pas eu de responsabilité effective, puisqu'il s'est retrouvé au second tour dans une hypothèse très particulière. Tu peux pas dire que ce soit vraiment un cas très très imposant où le peuple aurait tranché entre des options. Il n'a pas vraiment tranché entre, il a tranché entre deux options politiques, mais on peut dire que c'est un cas extrêmement atypique qui, à mon avis, relativise cette question de la responsabilité. Donc, quand tu dis effectivement la responsabilité, tu as une formule justement très fine sur la responsabilité intermédiaire, ne fonctionne pas très bien, mais elle est en quelque sorte, je résume ce que tu as dit, j'espère fidèlement, compensée par cette responsabilité ultime, c'est-à-dire électorale devant le peuple. En même temps, s'il faut attendre 5 ans, voire 10 ans pour avoir à un moment donné le peuple qui tranche, et c'est, on a dit, un problème conceptuel. La responsabilité électorale ne me paraît pas un concept adéquat pour définir véritablement ce qu'est la responsabilité. C'est une des critiques que j'avais fait, je crois, dans les articles de Pierre Arville. Je ne suis pas entièrement convaincu. En tout cas, cette idée qu'avait lancée Capitan me paraît maintenant, par rapport aux faits, largement décalée et anachronique.
Guy, tu voulais réagir sur...
Non, mais je ne suis pas en désaccord avec ce que vient de dire Olivier. Quand même, détail près, en 2002, les Français ont estimé que les charges pesant sur Jacques Chirac ne leur paraissaient pas d'une gravité telle qu'il eut lieu à ne pas le réélire président de la République compte tenu de l'offre disponible. Ça ne signifie pas qu'ils ont opiné sur les charges en question. D'ailleurs, ce n'était pas leur travail.
Mais non, je ne suis pas exprimé. C'est pas ce point-là. Le problème, c'est qu'il y avait l'option entre, au second tour entre Le Pen et Chirac, et donc ça faussait le bilan.
Bah, c'est ça que je veux dire. C'est pas oui. Oui, mais de toute façon, c'est vrai que ils n'avaient pas non plus à se substituer au juge. Quand je parle de la responsabilité ultime, je parle de la responsabilité ultime dans toutes ses composantes, mais on peut très bien soustraire de celle-ci celle qui, de toute façon, relève d'autres autorités et sera jugée le moment venu. Ce qui est exactement ce qui s'est produit pour le cas de Jacques Chirac. Il a été condamné, fût-ce très longtemps après, mais il a été condamné par des gens dont c'était le métier, qui en l'occurrence étaient qualifiés. Les Français, en 1995 comme en 2002, ne se prononçaient pas sur les faits en question, même si les faits pouvaient paraître choquants, ils se prononçaient sur tout à fait d'autres choses.
Peut-être faut-il distinguer en l'occurrence effectivement ce qui relevait du pénal et ce qui relevait de la possibilité ou non de faire jouer une responsabilité strictement politique, c'est-à-dire de porter un jugement global sur le septennat de Jacques Chirac. Et si j'ai bien compris ce que dit Olivier, c'est que là, cette possibilité-là n'a pas vraiment existé parce que le passage au second tour du Front National a faussé la
donne. Ouais, c'est aussi les Français qui ont
fait. Oui, mais a fait du coup de ce scrutin plus une élection qu'une épreuve, une mise à l'épreuve de la responsabilité politique, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est ça.
Oui, c'est pas un objet, un voilà. Instrument adéquat. L'élection n'est pas un instrument adéquat.
L'élection ne se prête pas toujours à la Armel, tu voulais.
Oui, on a déjà touché à beaucoup de choses assez diverses et difficiles. De réagir, mais il y a plein de choses sur lesquelles je voulais réagir. Par rapport à Guy et à ses critiques, tu as une formule, quand tout est responsabilité et donc rien n'est responsabilité, je pourrais presque dire que j'assume, non pas la responsabilité de cette formule, mais je crois que c'est un peu vrai, malheureusement ou heureusement. Et d'ailleurs, je reste convaincu qu'on ne peut pas se contenter d'appréhender la notion de responsabilité, tout en considérant que c'est un concept constitutionnel qui, à mon avis, demeure dans une certaine mesure opératoire. Je crois encore une fois que, et d'ailleurs nos échanges me laissent à penser tout de même que ça dépasse la seule mise à l'épreuve en cas de scandale, de faute, de de grave erreur d'un gouvernant, le cas qui éveille chez nous de la nostalgie. Parce qu'au fond, on pourrait dire qu'il y a des régimes dans lesquels ça marche encore bien. Les régimes non majoritaires, là, il y a du suspense parce qu'il n'y a pas de rapport de force, et pas de godillot, ou en tout cas, les rapports de force ne sont pas figés. On a dans les pays nordiques des situations où ça marche. Au Danemark, ça marche, surtout quand il y a beaucoup de gouvernements minoritaires. Philippe Leroux est le meilleur spécialiste que moi là-dessus. Il y a aussi une question de culture qui est que dans un système parlementaire assez classique, moniste mais assez classique, dans la culture danoise, il y a des disciplines de vote et en même temps, le Folketing ne s'estime pas systématiquement obligé de soutenir un ministre. Et on connaît même des systèmes, ils sont plus rares maintenant, mais beaucoup de constitutions des années 20 l'ont fait, où ils ont mis parallèlement, rationalisé une responsabilité collective du gouvernement et une responsabilité individuelle de ministre. Je me demande d'ailleurs, on parlera des instruments peut-être plus tard, si dans le parlementarisme de parti moderne, avec responsabilité électorale, ou en tout cas une dimension électorale à ce jeu qui, à l'époque de Bejot, était encore, laissait l'opinion publique encore un peu à l'écart, ou en tout cas le corps électoral, je me demande si ce qui faisait peur à une époque, ne pas prévoir de mécanisme pour destituer ou pour forcer la démission d'un ministre individuellement, on avait peur de défeuiller un cabinet, d'affaiblir comme ça les cabinets, si ce ne serait pas une soupape de sûreté pour éviter de permettre qu'il y ait quand même une procédure contre un ministre sans forcément remettre en cause tout le cabinet. Ensuite, c'est une autre question qui ne dépend pas des règles de droit d'enfermer, c'est de savoir si le gouvernement fait, le Premier ministre fait bloc avec son ministre ou pas. C'est une autre affaire. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est que là on dresse des actes de décès et des déclarations nombreuses, mais en réalité, la situation, comme souvent, la situation de la Ve République nous voile un petit peu, la spécificité de la Ve République nous voile la situation des régimes contemporains, et notamment de ceux qui sont les plus nombreux, qui sont les régimes parlementaires, et on a encore des systèmes dans lesquels on n'a pas forcément à déplorer autant de choses. Et Philippe Leroux nous parlera sûrement à un moment de la responsabilité administrative en Suède, et ça renvoie aussi à une des suggestions que tu avais faites sur la possibilité de faire des blâmes, d'infliger des blâmes à des ministres, etc. Sur le problème plus fondamental qui a été évoqué, notamment par Denis, puis par Philippe Leroux, c'est que, bien sûr, on sait depuis longtemps que, il faut savoir, je crois qu'on a encore une différence de régime, de type de régime, en tout cas le régime à l'américaine et le régime parlementaire, qui demeure. Alors, qu'on dise c'est la responsabilité politique qui est le critère distinctif, soit ça ne joue pas de la manière ou dans l'explication des auteurs du 19e siècle de la même manière parce que c'était un parlementarisme notable avec des disciplines qui n'étaient pas la même, il y avait les MPs indépendants qui étaient comme le fléau de la balance. Aujourd'hui les conditions politiques ont un peu changé, mais néanmoins la distinction, comme Philippe l'a dit, elle demeure fondamentale. Et le terme de responsabilité était en effet le drapeau sous lequel se subsument beaucoup de choses, et notamment cette question de la majorité dont, dans le cas parlementaire, on a besoin pour gouverner, pour se maintenir, et dans le régime présidentiel, on n'en a pas besoin, puisqu'on peut avoir une majorité au coup par coup. On sait bien que, quand on dit le parlement le plus fort du monde, c'est le Congrès américain, parce qu'il est dans cette situation d'extranéité par rapport à l'exécutif, et c'est une chose qui est beaucoup plus plaisante, parce qu'on a l'impression que quand ils ne sont pas d'accord, les membres du Congrès ne votent pas les mesures suggérées ou appuyées par l'exécutif, alors que des députés dans les régimes parlementaires ont des réticences à le faire, que ce soit en France ou même en Allemagne ou même au Danemark dans un certain sens. On a du mal à désavouer son ministre. Ça arrive tout de même plus souvent, et c'est pour ça qu'au départ j'avais essayé d'introduire, sans doute en le formulant très mal d'ailleurs, la question de la responsabilité intermédiaire et de cette vie quotidienne des ministres avec les parlementaires. Je crois qu'un des éléments et un des génies du gouvernement représentatif moderne, avec les conditions qui ont changé depuis l'époque de Bejot ou d'autres auteurs classiques, c'est quand même de s'interroger sur la façon dont, entre deux élections, cette interaction se fonctionne entre l'exécutif et le Parlement. Qu'on soit en situation majoritaire, avec fait majoritaire strict, ou au contraire, situation un petit peu plus ouverte, c'est tout de même vers ça qu'il faut, à mon avis, se tourner, au-delà des crises ponctuelles qui peuvent arriver quand il y a un scandale. Et Bejot disait aussi, la vie politique anglaise n'est qu'une série d'actions et de réactions des ministres face au Parlement. Je crois que ça demeure vrai dans une certaine mesure, mais il faut se rendre compte qu'il y a toute une série de processus informels que l'on a du mal, juriste, à prendre en considération. Il y a des choses qui se passent, il faut être très informé de la vie politique et avoir des bonnes entrées, des informations pour savoir qu'une réunion de groupe a été orageuse, et plus que ça, dans des discussions préalables pour un projet de loi, le ministre finalement refait complètement sa copie parce que les spécialistes du groupe majoritaire ou de la coalition ne n'en veulent pas. L'exemple allemand que j'ai un peu étudié me montre que ça joue à plein. Et de ce point de vue-là, on peut dire que les gouvernements allemands, malgré le fait majoritaire, malgré l'autorité du chancelier, malgré cette forme de responsabilité solidaire électorale du gouvernement avec la majorité tous les 4 ans, il y a un mode parlementaire de gouvernement qui est assez efficace. Et où je dirais que le président du groupe majoritaire est presque plus important que beaucoup de ministres, et les ministres ne font pas n'importe quoi. Encore une fois, ça c'est une façon très française de fonctionner depuis 40 ans, qui fait que les ministres, l'exemple que tu prenais, c'est que le gouvernement semble ne rien, enfin, tellement plus concerté en amont avec sa majorité, qu'il considère qu'en effet, une fois qu'il a l'appui de ses hauts fonctionnaires, du Conseil d'État et autres, qu'il ne peut rien changer à ça, ou parce qu'il ne peut pas perdre la face face à l'opinion publique. C'est un autre aspect de cette question. On ne revitalisera pas la responsabilité politique en cassant complètement l'acquis des régimes parlementaires stables, mais il faut trouver le jeu, c'est assez subtil, que le gouvernement ne perde pas la face, car au fond, une bonne partie de l'action du gouvernement, d'abord, est développée devant l'opinion, devant la presse, devant les médias, avant de se faire au Parlement. Et ce que les Allemands, peut-être aussi dans d'autres pays ça marche aussi, réussissent, me semble-t-il, assez bien à faire, avec certainement des cas où ça ne marche pas, c'est que ce travail en amont, il est très important et il fonctionne relativement bien. En France, je crois que la mise à distance de l'exécutif, lui octroyer une plus grande latitude, qui était le but en 58, a trop bien marché, puisqu'il s'est maintenu, alors même que le Parlement n'est pas a priori hostile au gouvernement, mais on a pris l'habitude de le tenir à l'écart, et ça donne des situations comme celles que tu as décrites.
Oui, Philippe. Oui, Armel nous dit que la Ve République nous voile un certain nombre de choses. Il y a une chose qu'elle nous voile en particulier, et il y a un mot qui n'a pas encore été du tout prononcé, qui reste valable pour l'ensemble du débat, c'est le mot de parti. On n'a pas parlé des partis, Armel parle du Parlement, il nous reparle du Parlement, et puis il dit...
Non, je pourrais détailler, mais je suis du prénom à chaque fois.
Mais vous voyez bien ce que je veux dire. On ne parle pas des partis, or c'est pourtant dans le contexte de systèmes particratiques, dans la plupart des systèmes démocratiques parlementaires monistes, que doit être apprécié le jeu contemporain de la responsabilité. Par exemple, il n'y a pas de mise en jeu parlementaire de la responsabilité, il n'y a pas de rejet de la confiance, il n'y a pas de motion de censure. Mais quand un gouvernement, comme en Italie avant 1995, ou bien dans les pays scandinaves ou dans les pays du Benelux, quand un gouvernement implose en Conseil des ministres, qu'est-ce que c'est que d'autre qu'une responsabilité politique du gouvernement ? On n'attend pas que la bagarre se passe au Parlement, elle se passe simplement entre deux gens qui se sont accordés sur une base d'un accord politique, mais sur un fondement exclusivement partisan. Et le caractère principalement partisan de cela se marque notamment par le fait qu'il n'est pas rare que les chefs réels des partis, donc les présidents, les secrétaires généraux, tout ce qu'on voudra des partis, ne sont même pas eux-mêmes des parlementaires. Donc c'est depuis le siège de leur parti qu'ils donnent les ordres aux ministres représentant ces partis, et ça c'est pas nouveau, n'est-ce pas? Souvenons-nous que Léon Blum disait qu'il était le représentant de la SFIO au gouvernement, donc ce sont de vieilles histoires en France. Simplement, évidemment, l'hyper-présidentialisme nous a effectivement voilé cela dans le contexte français, mais ça reste valable dans beaucoup d'autres circonstances, si ce n'est qu'évidemment en Grande-Bretagne, du fait du bipartisme, c'est voilé également. On continue de raisonner en termes avec le vocabulaire, la sémantique classique. Et néanmoins, c'est une question essentiellement de particratie qui joue, et là encore, c'est tout de même une différence fondamentale entre un système de responsabilité, issu de la responsabilité classique, mais dans un continuum, et un système de non-responsabilité qui est celui des États-Unis, où les partis n'ont pas du tout ce rôle-là et ne cherche pas à l'avoir.
Madame Thatcher, la démission de Madame Thatcher est quand même un cas de responsabilité politique en dehors de. Mais dans un continuum, encore une fois.
Denis, tu justement dans le siège de ce qu'est des films, c'est aussi une question que je pose parce que je n'ai pas le savoir comparatiste tranché. Je me demande quand même s'il n'y a pas une autre victime collatérale de la crise du parlementarisme et de la responsabilité, et qui est la solidarité gouvernementale. Je trouve quand même que la cinquième sarkozienne, la solidarité gouvernementale, quand j'aborde ce point-là de mon cours de première année, je m'attends à ce que mon jeune public ricane. Enfin, les rapports, les propos chaleureux de Mme Pescussion-Morizet sur François Copé et François Fillon au moment des OGM, ou beaucoup de choses. Enfin, je me rappelle de l'époque où on parlait en fronçant un léger sourcil du ministre Schwarzenberg qui avait dû démissionner, Jacques Servan-Schreiber qui était parti très vite parce qu'ils avaient dit un petit truc qui n'allait pas aujourd'hui, avec Twitter et etc. etc. Il me semble que la solidarité gouvernementale, c'est plus un truc opérationnel. Et je, à la fois, je vois entièrement ce que vous dites sur les partis, je pense que c'est exact dans beaucoup de pays. Par exemple, dans le cas britannique, on a une situation actuellement assez paradoxale d'une coalition qui a déjà implosé. Elle a déjà implosé, mais elle continue à gouverner comme si de rien n'était, de sorte qu'au fond, le pouvoir des partis est un truc que je trouve compliqué. Je sais pas comment, dans les grandes coalitions allemandes, je sais pas comment ça.
Elle a implosé.
Elle a implosé aussi, mais je ne sais pas le risque à dire ça.
La situation n'est pas très différente.
C'est assez amusant quand même. C'est-à-dire, au fond, on se retrouve avec, par exemple, un référendum où il y a les deux parties d'une coalition gouvernementale qui appellent à voter deux choses différentes. C'est quand même assez. C'est beau comme l'antique, quoi. Donc, au fond, la solidarité gouvernementale me semble être aussi à.
Peut-être dans le cas, enfin, juste un mot sur la solidarité gouvernementale, dans le cas de la cinquième, parce que ta question est plus large, pour qu'il y ait solidarité gouvernementale, encore faut-il qu'il y ait un gouvernement, comme organe, je veux dire. Et pour qu'il y ait un gouvernement, il faut qu'il y ait un minimum d'indépendance organique des ministres vis-à-vis du chef de l'État, ce qui n'est pas le cas dans la cinquième sarkozienne, me semble-t-il. Mais,
qu'il y ait un minimum d'autorisation pour les membres du gouvernement à sortir de leur. C'est l'autre versant de la même chose. Le gouvernement, à mes yeux, a cessé d'exister le jour où le Conseil des ministres a cessé d'exister. C'est-à-dire où le ministre de l'Agriculture ne peut parler que d'agriculture, ne peut pas parler de la politique générale du gouvernement. Même chose pour le ministre des Affaires étrangères. Chacun est dans sa petite case, et chacun ne rend compte de sa petite case qu'au chef de l'État.
Alors, en gros, si on a des perspectives très différentes, parce que certains disent, bon, la responsabilité, c'est du passé, c'est de l'histoire, c'est fini, c'est terminé. Et Denis, par exemple, associe ça avec la déférence. Alors, s'il y a quelque chose qui est bien terminé, c'est bien la déférence, donc ce serait irréversible. C'est intéressant, d'ailleurs, comme position, j'y ai pas pensé. Et d'autres qui nous disent, dont j'aurais plutôt tendance à être quand même, c'est peut-être quand même pas si fini que ça, à ce point-là, un peu ça. Et en même temps, on en discute sans qu'il y ait de vrais désaccords en réalité. Peut-être parce que la question de la responsabilité est tellement entre l'être et le devoir être qu'au fin, en fin de compte, est-ce que c'est, est-ce que c'est plus, est-ce que ça devrait être, est-ce que ça a eu été, etc. Ça finit par être finalement des questions, enfin des thèmes assez fluides. Je voulais rebondir parce que j'ai un petit peu en tête les thèmes qu'on doit aborder. Je voulais rebondir sur une remarque d'Olivier tout à l'heure. Lorsqu'il nous disait, il y a quand même de la responsabilité, et ça existe encore, lorsque le président de la République démissionne des ministres dont le maintien est devenu tellement inacceptable, semble-t-il, aux yeux de l'opinion, qu'on finit par les démissionner. Ça, je pense que c'est une remarque qui est quand même très, très juste. Et en même temps, c'est quand même très frappant de voir cette concentration. La responsabilité jouerait, mais elle jouerait entre les mains d'un acteur qui est radicalement différent de l'acteur classique, à savoir les parlementaires indépendants dans la Grande-Bretagne du 18e, mettons. Et c'est le chef de l'État lui-même qui va la faire jouer. Quand je disais capitant, par exemple, le texte qu'on avait, où il disait le Parlement doit être contrôleur, il s'est chargé de dénoncer, dit-il, les déformations de la politique présidentielle. L'inadéquation, peut-être, par rapport aux engagements qui ont été pris. Dans la ligne de ce que dit Olivier, on pourrait dire mais c'est le président qui juge aujourd'hui de des formations de la politique dite ministérielle qui en réalité c'est de la sienne, mais qui va être imputée au ministre lorsqu'elle va devenir franchement inacceptable sous pression de l'opinion. Donc
Voilà, c'est ce jeu minimal de la responsabilité existe quand même encore, même si c'est une exception minimaliste, je suis d'accord avec toi, qui est trop restrictive, mais elle a changé d'acteur décisif. On est plus dans ce que Constant aurait appelé le pouvoir neutre, mais qui en l'occurrence est une neutralité tout à fait discutable du chef de l'État. Mmh. Et qu'est-ce que vous faites de ça, et enfin, pourquoi, comment, et comment penser ça, Olivier ?
Juste ajouter quelque chose à ton propos, c'est, on n'a pas encore parlé de ça, je crois, donc c'est dans la responsabilité qu'exerce, enfin le pouvoir qu'exerce le président de la République en France sous la 5e, donc c'est vraiment spécifique à la France, mais il faudrait peut-être examiner si ça existe dans d'autres pays. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans les dernières années, depuis maintenant 30 ans, c'est que ce sont maintenant les fonctionnaires ou les membres du cabinet ministériel qui sont ceux qui payent les erreurs qui étaient traditionnellement imputées aux ministres. Donc on dit les ministres, ils sont responsables devant le président, mais il y a une petite astuce qui consiste à dire que les ministres s'en sortent lorsqu'ils arrivent à faire passer leurs collaborateurs les plus proches pour responsables des actes que théoriquement, régis parlementaire, ils devraient endosser. Et la formule, j'ai encore en mémoire la formule de Roland Dumas lors de l'affaire Abache, qui avait dit, avec son aplomb qui est une caractéristique, je ne suis responsable que devant le président. Tout ça a été passé comme une lettre à la poste. Et c'était le pauvre secrétaire général du Quai d'Orsay qui, paraît-il, avait été un éminent diplomate qui avait dû valser. Les fonctionnaires du Quai d'Orsay avaient fait une pétition à l'époque, c'était très rare. Mais M. Dumas est resté évidemment le droit dans ses bottes, avec un appui qui n'était pas mineur, peut-être celui de son président. Voilà, donc...
Le
directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, tout le monde a viré, etc., sauf les ministres en question. Et on pourrait prendre d'autres exemples, lorsqu'il y a eu une tuerie à Carcassonne, M. Hervé Morin, qui était ministre des Armées, a évidemment démissionné le fonctionnaire qui était censé être responsable. Donc là, on a vraiment, un cas assez intéressant de dérive, de transfert de responsabilité. Je serais curieux de savoir si dans d'autres pays, on a ce même phénomène, parce que là, je crois qu'on a vraiment une tendance que je considère moi, plutôt comme inquiétante.
C'était Revel qui avait bien mis ça en évidence, l'irresponsabilité présidentielle dérive dans l'irresponsabilité ministérielle, et finalement c'est le soufflet tout relatif, mais qui paie, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, par essence, n'est pas politiquement responsable, c'est lui qui le devient.
Et pardon, avant de céder la parole à Guy, une petite chose pour aller dans le sens d'Olivier de manière complémentaire, tu décrivais ça très bien il y a déjà...
Il y a tant longtemps.
Voilà, un certain temps. Il y a aussi, dans cette logique de responsabilité imputée n'importe comment, disons, il y a aussi un comportement de la part des hauts fonctionnaires eux-mêmes. J'étais très frappé lorsqu'un jour un ambassadeur de France, dans un poste assez important, me disait, j'ai dit à mon ministre, ou au président, je ne sais plus, je lui ai dit, soit vous m'accordez ce que je veux, soit vous renoncez à ce que vous prétendez me faire faire, soit je m'en vais, soit je démissionne. Et je lui ai dit à ce moment-là, mais c'est très frappant, c'est un comportement de gouvernant, enfin de ministre, c'est pas un comportement d'ambassadeur, me semble-t-il. Voilà, ça peut-être pour aller.
Il aurait mérité d'être ministre.
Dans ce sens, j'avais trouvé ça assez frappant.
Vous avez sûrement très probablement pas dit.
Je crois pas. Alors, en l'occurrence, je crois pas.
Mais là, on est en train d'aller vers. Si j'ai bien compris, on va vers le deuxième thème de la réactivation. Mais non, mais il l'a fait exprès. C'est très juste. Mais. Moi, je suis frappé de ce que pour beaucoup de sujets, je tiens souvent Georges Pompidou pour responsable de beaucoup de choses mentales. Et je crois que celle-ci en est une. De Gaulle avait une conception extrêmement exigeante de la responsabilité politique. Pour lui, n'importe quel ministre qui avait un problème sautait, point. Il y avait eu un épisode fameux qui est, je crois, vers 64, où plusieurs prisonniers s'étaient évadés simultanément. Instantanément, il révoquait le garde des Sceaux. Et il a fallu que ce soit Pompidou et un certain nombre d'autres qui aillent faire le siège de Gaulle dans son bureau en disant « Mais le garde des Sceaux n'y est pour rien, mais surtout il est en plein milieu d'une réforme d'une importance considérable de tout le droit français ». On ne peut pas se permettre de séparer lui et tout ça. Et donc, finalement, c'était tombé sur le directeur de l'administration pénitentiaire, et Foyer avait sauvé sa tête, mais vraiment extrêmement peu. tous les ministres avaient le droit, hélas, d'être candidat à des élections locales. Mais celui qui n'était pas élu n'était plus ministre, point.
Et De Gaulle a maintenu Couve de Murville et encore un autre, dont j'ai oublié le nom, en 67.
C'est dans le
Il n'a pas pu le nommer à Matignon parce qu'il l'a fait.
Alors, non, Couve de Murville, c'était un cas un petit peu différent. De Gaulle avait atténué, enfin, je ne peux pas me tromper en disant la chose suivante. De Gaulle, par mansuétude coupable à l'égard de Couve de Murville, avait atténué la règle en disant non, lui, Couve de Murville, c'était pas pareil. Il n'était pas élu, il cherchait à l'être.
Oui, et l'autre, j'interviens parce que je me souviens bien de cet épisode pour des raisons d'ordre personnel. L'autre, c'était Mesmer. Et il avait dit que Mesmer n'était pas élu.
Exactement.
Donc il avait opposé. Non, oui, c'est ça. Ils n'étaient pas sortants.
Voilà, ils étaient
pas sortants. Candidats, mais ils n'étaient pas sortants.
Ils n'étaient pas sortants, bon.
Alors, cela dit, c'était un argument inventé a posteriori.
Absolument. Mais non, il n'en demeure pas moins que la règle fixée par De Gaulle, c'est vous êtes sortant, vous êtes candidat à des élections qui n'ont rien à voir avec votre portefeuille ministériel, vous êtes battu, vous le perdez quand même. Parce que, ayant été désavoué où que ce soit par le suffrage universel, vous ne pouvez pas l'être. Cette règle, qui finalement n'avait pas, à mon avis, aucun inconvénient, et présentait beaucoup d'avantages, ne serait-ce que parce qu'elle aurait dissuadé des membres du gouvernement de continuer à cumuler, a été abandonnée par Georges Pompidou. Bien. Et puis, à partir de là, l'habitude s'est prise. Bon, on est désavoué par le suffrage universel, ça n'est pas grave, c'est un événement à supposer que s'en soit et exclusivement local. Puis, à partir de Valéry Giscard d'Estaing, s'est enclenché le processus fatal qui, de lui à François Mitterrand et jusqu'à Jacques Chirac, a conduit, et ça, notamment Olivier le rappelait de très juste avec Jean-Michel Blanquer dans son introduction, à ce que le président de la République ne soit plus responsable. Il arrive quelque chose, c'est pas de chance, mais moi je ne suis pas concerné. Je perds des législatives, aucun problème, je reste président, je repère des législatives, aucun problème, je reste président, je perds un référendum, aucune importance, je reste président, je provoque une dissolution, je la perds, mais même pas mal. Donc, il va de soi que cette pulvérisation, cette disparition pure et simple de toute responsabilité présidentielle, disqualifier assez largement le principal intéressé pour se montrer ensuite le gardien sourcilleux de la responsabilité politique à l'égard des autres. Si vous me permettez une seconde, quelques secondes d'anecdotes et de souvenirs personnels, j'avais eu la chance de me trouver dans le bureau du Premier ministre, il s'agissait de Michel Rocard, le jour où, de manière parfaitement grotesque, Olivier Stirne s'était fait gauler avec de pseudo-militants qui, en vérité, étaient des gens qu'il avait payés, de jeunes étudiants, pour venir à une réunion qu'il organisait. Pas de chance, ils sont...
Peut-être faut-il rappeler quelles étaient les fonctions de l'État.
Oui, Olivier Stirne était secrétaire d'État à... Je ne me rappelle plus quoi, d'ailleurs. Mais il était ministre délégué à quelque chose. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Enfin, il était ministre du gouvernement Roca. Là-dessus survient ce truc véritablement... honteusement ridicule, parce que, après tout... que l'on procède à ce type de subterfuge, pourquoi pas, mais au moins, il ne faut pas se faire prendre. Bon. Il se fait prendre. Là-dessus, le Premier ministre l'appelle en lui disant « C'est embêtant ce qui t'arrive. » Et Olivier Stirne répond en rigolant « Oui, c'est très embêtant, mais ce sera vite oublié. » Et Rocard lui dit « Oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, ce sera très vite oublié. La seule raison pour laquelle je t'appelle, c'est pour savoir si tu préfères que ce soit toi qui démissionne ou que ce soit nous qui te révoquions, le président et moi. Mais je pense que c'est peut-être ton intérêt de démissionner, toi. » Blanc la ligne, le rire s'est instantanément arrêté, bizarrement. Et réponse de Stirne, mais tu ne parles pas sérieusement. Rocard dit, si, écoute, je suis désolé, pour moi, au niveau gouvernemental, on restera très copains, ma porte sera toujours ouverte, mais enfin, le ridicule tue. Tu t'es placé dans une situation ridicule, c'est très injuste, tu as été un très très grand ministre et l'histoire retiendra ta trace, mais enfin en attendant, qu'est-ce que tu préfères, démissionner toi-même ou contre Prévost? Et finalement, Stirne finit par dire alors je vais t'envoyer ma lettre de démission, et Rocard dit ça tombe très bien, j'envoie tout de suite un motard qui attendra que tu arriveras. Et soit dit en passant, conversation, le coup de fil précédent avec le président de la République, qui ne l'avait pas pris sur le même ton badin, mais qui était lui-même suffoqué. Suffoqué. Que Rocard insiste pour limoger un membre du gouvernement pour quelque chose d'aussi véniel. Mais, il ne, enfin, pour des raisons qui lui appartenaient, il n'a pas voulu dire non, comme il en avait effectivement le pouvoir, donc il s'est résigné, et ça s'était terminé, bon, pas bon, mais en tout cas, c'est vous qui l'appelez. Donc voilà. La mise en œuvre de l'un de ces cas, somme toute nombreux, dans lesquels la responsabilité politique peut être tout à fait justifiée, stupéfiait aussi bien le président de la République que le ministre concerné. C'est vraiment totalement sorti du champ. Et les exemples auxquels vous faisiez allusion à l'instant, l'affaire Abache, est absolument quelque chose d'incompréhensible, enfin, d'inouï, de faramineux. Pousser à ce point l'irresponsabilité et la faire peser sur d'autres est quelque chose que même 20 ans après, j'en fais toujours parmi.
Bien, alors, en attendant que Guy se remette, on va peut-être pour lui faciliter sa guérison, faire une petite pause d'une grande dizaine de minutes, disons, avant de passer à la deuxième session de notre séminaire. Qu'on consacrera plus spécifiquement à la question de l'imputation de la responsabilité avant d'essayer de voir quels seraient les moyens de réactiver la responsabilité politique.